L'auberge espagnole sur les ondes de Divergence FM 93.9. Pourquoi les mathématiques? Point d'interrogation. Une question à laquelle on pourra répondre du 30 octobre au 20 décembre à Montpellier lors de la venue de l'exposition internationale qui porte ce titre. Pourquoi les mathématiques? Point d'interrogation. On sera au téléphone avec Viviane Durand-Guerrier, prof de maths à la fac des sciences. Dans quelques petits instants qu'on va passer avec Mos Def et son Mathematics. Bucka, 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 bucka. You know the deal. This is me, though. Beast by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth. The universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal. I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle. Hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor better keep your alarm set. Streets too loud to ever hear freedom ring. Say it back in with your sleep. It's dangerous to dream, but your chain cats get they chipped. You dead now. Killing fields need blood to graze the cash cow. It's a numbers game, but shit don't add up somehow. Like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is 1/4 black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the terror dome. Full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers. Crack mothers, crack babies and AIDS patients. Young bloods can't spell but they can rock you a PlayStation. Snoo Mav is whipping motherfuckers ass. You wanna know how to rhyme, you better learn how to add. It's mathematics.
Mighty most definite.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most definite.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? What are we talking about here?
Yo, it's one universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life. Mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the seven deadly thrills. 80-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.15. You best believe you gotta find a new grind to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics. From your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man. Channel women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty most definite.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty most definite.
It's simple mathematics. Check it out. I revolve around science.
What are we talking about here?
Mathematics, la vision des mathématiques de Mos Def. Et on est, on avait sélectionné évidemment cet excellent titre pour parler justement de cette exposition qui, à l'initiative de Montpellier 2, sera présente à Montpellier, à la médiathèque centrale d'agglomération Émile Zola, puis à la bibliothèque universitaire de l'UM2. Et on est au téléphone avec Viviane Durand-Guerrier. Bonjour Viviane.
Oui, bonjour et merci pour votre invitation à venir vous dire quelques mots à l'antenne sur notre exposition.
Alors une exposition qui répond à la question de comment sensibiliser le public à l'importance des mathématiques et mettre en évidence leur implication dans tous les domaines de la vie. Une exposition une installation conçue et réalisée par le Centre des sciences d'Orléans à l'initiative de l'UNESCO et qui tourne dans le monde entier depuis 2004, donc c'est quand même un événement.
Oui, tout à fait. C'est un événement très exceptionnel. Cette exposition a été très peu présentée en France et nous avons été très heureux de pouvoir la faire venir à Montpellier. Ça correspond à une mobilisation très importante de tous les chercheurs, enseignants-chercheurs du département de mathématiques et du laboratoire de mathématiques de l'Université Montpellier 2 et puis de la médiathèque Zola de l'agglomération qui a accepté de nous accueillir, puis la BU Sciences et à l'université, comme vous l'avez dit. Donc c'est une exposition qui s'adresse à tout public, depuis les enfants de l'école primaire jusqu'à l'université, en passant par les collèges et lycées, les parents, et y compris pour ceux qui ont toujours pensé que les mathématiques, ce n'était pas pour eux. En fait, les mathématiques sont présentes, elles sont attractives, elles sont attirantes, et voilà, il y a beaucoup d'objets, beaucoup de manipulations possibles, et l'exposition comporte 9 thèmes. Donc je ne vais pas les décrire tous ici, mais il y a lire la nature, donc les mathématiques permettent de lire la nature, il y a des thèmes qui sont liés à la vie moderne et contemporaine, les mathématiques interviennent dans énormément d'outils technologiques, et puis il y a aussi des questions purement mathématiques que l'on peut matérialiser par des objets, des cubes, des puzzles, des pavages, voilà, on va avoir des choses sur la forme. Des formes qui peuvent passer dans un trou, ne pas passer dans un trou, des probabilités, optimiser, trouver les meilleures solutions, chercher le plus court chemin, trouver les formes optimales. Donc ce sont toutes questions qui sont très, très riches du point de vue des mathématiques et pour un très grand nombre d'entre elles, extrêmement utiles dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne.
Une exposition, une installation dont l'un des maîtres mots, c'est l'interactivité.
Totalement. Le maître mot, c'est l'interactivité, arriver à s'approcher d'un thème, regarder, comprendre, toucher, jouer, essayer de trouver des solutions, manipuler, voilà, c'est tout à fait, le maître mot, c'est l'interactivité et c'est une manière d'approcher les mathématiques par ce rapport aux objets, ce rapport à... Voilà, on réfléchit avec sa tête et avec ses mains, par exemple. Il y a un des thèmes qui s'appelle « Calculer avec les mains ». On visualise des formules mathématiques qui peuvent vous sembler abstraites et difficilement concevables, mais on va pouvoir les visualiser avec des objets, avec des cubes, avec des pyramides. Voilà, et donc chacun peut s'essayer à ces questions-là. Il y a des questions qui sont plus faciles à trouver, d'autres qui demandent plus de temps de réflexion, et ça intéresse... tout le monde, c'est-à-dire on peut s'intéresser vraiment à ces questions-là dès le plus jeune âge parce que justement il y a cette approche par les objets qui fait que les enfants peuvent rentrer dans les manipulations et ils sont souvent très créatifs. Et puis on peut aussi continuer à s'intéresser quand on est un adulte, quand on est engagé par ailleurs dans des activités de tout ordre, que l'on soit littéraire, scientifique, artiste. Évidemment, il y a une dimension artistique aussi certains des objets de l'exposition, voilà, il y a un arbre à musique, voilà.
Oui, c'est vrai que les mathématiques ont inspiré aussi beaucoup de plasticiens, voire de musiciens même. L'inauguration aura lieu ce dimanche 4 novembre. L'exposition est visible à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 décembre à la médiathèque centrale d'agglomération Émile Zola. Donc, que va-t-il se passer lors de cette inauguration le dimanche 4 novembre ? Y aura-t-il des personnalités qui ont contribué à la création de cette installation ?
Oui, alors nous avons lancé des invitations pour effectivement un certain nombre de personnalités qui seront là ou qui seront représentées compte tenu de ce que c'est un dimanche. Donc le soutien bien sûr de l'université, le soutien du laboratoire de maths, du département de maths, le soutien aussi du rectorat via les inspecteurs d'académie également qui nous ont beaucoup soutenus dans cette démarche, les services scientifiques de l'université culturelle, les représentants de l'agglomération également. Donc je n'ai pas la liste des personnes qui seront présentes. Il y aura aussi de nombreux mathématiciens et donc notre idée, c'est de pouvoir aussi rencontrer le public à cette occasion. C'est-à-dire nous serons nombreux sur l'exposition et donc les gens qui seront là dimanche pourront à la fois voir quel est l'esprit, qu'est-ce qui a présidé et quelle est à cette venue, hein, et qu'est-ce qu'on en attend aussi tous, suivant nos positions dans l'institution, et puis également rencontrer des mathématiciens pour justement visiter l'exposition, s'approcher des différents thèmes, avoir des discussions, et aussi pour les enseignants qui le souhaitent, nous rencontrer également. Nous avons fait un effort très important, il y a plus de 60 places actuellement qui sont inscrites pour visiter l'exposition, et nous n'avons presque plus de place. Nous avons un peu dû refuser les dernières classes qui se sont manifestées, mais voilà, donc nous faisons un accueil de scolaires de manière très importante. Et également, il y aura sur l'exposition, dans toutes les périodes d'ouverture, des mathématiciens qui seront là pour accompagner l'exposition, en plus des animateurs de la médiathèque Zola pour la période de l'agglomération, et en plus des personnels de la bibliothèque de la BU Sciences lorsque nous serons sur le campus de l'UM2, le campus Triolet. Voilà, donc une grande présence des mathématiciens pour interagir avec le public, avec les classes, avec les enseignants.
Voilà, c'est du 6 au 20 décembre que l'expo sera visible à la bibliothèque universitaire de l'Université Montpellier 2, avec une inauguration le jeudi 6 décembre à midi. Et puis, cette exposition connaît aussi une version en ligne qu'on peut retrouver sur le www.experiencingmaths.org qui permet de se rendre compte, on va dire, de la diversité des niveaux, puisque c'est sous forme de petites animations en flash, où on peut un petit peu se tester aussi.
Tout à fait, c'est une exposition qui est très complémentaire, hein, de l'exposition que nous présentons, qui a été mise en ligne par les personnes qui ont conçu l'exposition que nous présentons, et effectivement la visiter avant ou après est tout à fait intéressant comme complément. Ça ouvre sur la diversité, et puis si vous allez également sur le site qui a été ouvert sur le département de maths, nous avons ouvert une page qui est dédiée à l'exposition. Et là, nous avons déjà mis des documents en ligne, et puis nous en mettrons d'autres, et nous allons rajouter des liens pour les gens qui ont envie d'en savoir plus sur ces possibilités pour les mathématiques, sur ce qu'on peut faire avec les mathématiques, sur les questions qui restent ouvertes, et celles où il y a encore des choses, on a encore des choses à apprendre sur les applications. Voilà, donc nous allons augmenter, disons, les liens pour, continuer autour de l'exposition à explorer. C'est possible, puisque notre souhait vraiment, c'est que les mathématiques puissent rencontrer le public de manière différente, peut-être des représentations qu'on peut en avoir lorsque l'on est sorti du système scolaire, avec peut-être parfois des réticences pour les mathématiques, hein, puisque ce sont des choses que l'on rencontre, hein, évidemment. Voilà, de voir qu'il y a une dimension autre que la dimension, on va dire, un petit peu abstraite, déconnectée de la vie réelle, hein. Notre idée, c'est de montrer que les mathématiques, bien sûr, c'est une discipline abstraite, bien sûr, c'est une discipline de l'esprit, mais c'est une discipline qui a énormément d'applications dans énormément de domaines, qui est très présente dans la vie dans la vie quotidienne, dans le monde technologique, et que on peut s'approcher de ça à travers l'exposition et puis d'autres pistes.
Alors justement, les mathématiques, pour que dans notre monde où tout passe un petit peu par un système de starisation, etc., les récentes médailles Fields de plus pour l'Hexagone peuvent aussi jouer à plein, surtout quand on a des personnages aussi charismatiques que Cédric Villani, par exemple.
Oui, absolument, hein. C'est-à-dire que c'est tout à fait très positif, hein. L'école française de mathématiques est effectivement considérée comme une des meilleures du monde, et les médailles Fields le prouvent. Donc Cédric Villani est une personnalité charismatique. Il y a de nombreux autres mathématiciens qui sont très investis dans la diffusion des mathématiques. Alors, je ne peux pas les citer tous, mais je pense à Étienne Gis, hein, qui est un mathématicien lyonnais, et puis Vincent Borelli également, qui est à Lyon. Il faut savoir qu'à Lyon vient de s'ouvrir une maison des mathématiques et de l'informatique. Alors nous, à Montpellier, on n'a pas la possibilité pour l'instant de faire quelque chose d'aussi important, mais nous travaillons à la diffusion de la discipline, à la meilleure connaissance de la discipline, et en appui effectivement avec les meilleurs mathématiciens qui font ce qu'ils beaucoup de travail pour justement diffuser et valoriser les mathématiques. Donc effectivement, hein, l'école de mathématiques française est très brillante. Alors nous, on souhaite aussi qu'il y ait de nombreux enfants, de nombreux jeunes qui, aimant les mathématiques, puissent venir à l'université, faire des études de mathématiques pour ensuite aller dans les métiers des mathématiques. Hein. Évidemment, on ne va pas tous devenir des médialphys, mais il y a énormément de métiers des mathématiques. Hein. C'est aussi quelque chose d'important. Ça fait aussi partie de ce qu'on a envie de communiquer. Il y a énormément de métiers qui utilisent les mathématiques. Il y a une très grande demande de mathématiciens dans beaucoup de professions. Et justement parce que les mathématiques sont très présentes dans énormément de domaines de la vie quotidienne, industrielle. Voilà, on peut penser aussi à la finance, évidemment, mais tout ce qui est toute la technologie. Les progrès technologiques n'auraient pas pu se réaliser s'il n'y avait pas eu le développement des mathématiques en relation avec ces développements technologiques, c'est-à-dire les deux vont de pair. Hein. Les mathématiques apportent des réponses et des solutions, et puis les demandes technologiques, la physique, l'informatique posent des questions aux mathématiciens et aussi la biologie. Aujourd'hui, il y a une évolution assez importante. En biologie, par exemple, une demande de mathématiciens de plus en plus grande pour étudier des modèles, pour travailler sur des simulations, voilà. Donc c'est un champ très grand, voilà, une discipline qu'on a envie de faire mieux connaître au public.
Et cette exposition y contribuera tout à fait largement. Viviane Durand-Guerrier, on vous remercie. Je rappelle que c'est sur www.mat.univ-mntp2.fr/plm. On retrouve évidemment ce lien sur divergence-fm.org, qu'on peut retrouver le site de l'exposition pour ce qui concerne la ville de Montpellier. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait
vlam,
ça fait
splash,
et ça fait
stop,
ou bien
bon,
ou
on,
parfois même
zip, shabam, pow, blop, whew.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blop,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
whim,
quand on s'envole et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam, pow, blop, whew.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blop,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là,
crack,
pour te protéger,
shack,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
slack, shabam, pow, blop, whew, shabam. Shabam, pow, blop, whiz.
Et oui, whiz, chantait-elle. C'était il y a longtemps, mais c'était il y a longtemps aussi que finalement, il y a une vingtaine d'années de ça, que les éditions Six Pieds Sous Terre voyaient le jour. Et cette année, c'est les 20 ans des éditions Six Pieds Sous Terre. L'occasion pour le musée municipal de la ville de Frontignan d'accueillir, je crois, deux expositions, à moins que je ne me fourvoie. C'était aussi l'occasion de sortir un bouquin qui a un peu résumé les 20 années d'existence. Quel auditeur divergent ne se souvient pas, avec une certaine nostalgie, de la voix de Jérôme Sier qui faisait sa chronique bande dessinée, une chronique bande dessinée avec le magazine Jade. Et pour en parler avec nous, c'est Fabrice R, qui est auteur et historien de formation, cofondateur des éditions Six Pieds Sous Terre. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors 20 ans c'est pas rien, mais en même temps à 20 ans on n'est pas raisonnable. Alors c'est toi qui as un petit peu mis en page, fait ce travail sur le bouquin qui célèbre ces 20 années d'histoire au pluriel. Comment ça s'est passé ce travail de collectage de témoignages?
Alors ça a été un travail qui a été assez long. Je précise juste une chose sur le départ, c'est que je ne suis pas un des cofondateurs de Six Pieds Sous Terre, hein, pas du tout. Je suis arrivé assez tard en tant qu'auteur simplement. Et précisément l'an dernier, ce sont les auteurs et certains bénévoles qui ont eu envie de fêter les 20 ans de Six Pieds Sous Terre, puisque les fondateurs regardaient ça avec beaucoup de sérénité, mais n'avaient pas nécessairement envie de célébrer ça. Et il nous a paru important de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient concernés par Six Pieds. Moi aussi, je me souviens de Jade, que je lisais étant plus jeune. Et donc, on s'est lancé là-dedans. Et on l'a fait à plusieurs quand même, avec d'autres auteurs comme Gilles Rocher, des bénévoles comme Juliette Salic, parce que le travail était assez important. Il fallait retrouver des auteurs qui n'étaient plus autour de Six Pieds Sous Terre, mais qui avaient beaucoup travaillé avec eux au départ. Et on a essayé de contacter absolument tout le monde.
Et donc, ça a pris un certain temps, j'imagine?
Ça a pris une année à peu près.
Un an, et puis j'imagine des dessins aussi, parce que des témoignages d'auteurs, mais aussi de participants d'un jour ou de toujours à la vie de la structure Six Pieds Sous Terre, l'envers du décor d'une aventure éditoriale dans la bande dessinée, une aventure qui se poursuit aujourd'hui.
Une aventure qui se poursuit, qui est toujours très dynamique, même si elle est toujours fragile. Et l'idée, effectivement, c'était de demander aux auteurs, mais aussi aux gens qui gravitaient autour, pour montrer qu'une structure comme Six Pieds Sous Terre, effectivement, c'était une maison d'édition, donc sa raison d'être, c'était ça, c'était de faire des livres, mais que ça nécessitait aussi beaucoup de bonne volonté de beaucoup de gens qui avaient des rôles très différents, et donc qu'on a voulu que chacun puisse s'exprimer dans ce livre, oui.
Voilà, parce que l'édition connaît une crise. Alors, est-ce que c'est un serpent de mer, un marronnier, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on en parle souvent. On comprend, hein, vu le prix du papier, tout ça, Internet, etc. Même si c'est tout ça est plein de faux débats et parfois de mauvaise foi. Mais c'est vrai que finalement, j'allais dire, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. C'est peut-être un bien grand mot, mais finalement, une échelle moindre que Gallimard ou Glénat ou que sais-je, on arrive à survivre et à se maintenir.
Oui, à survivre, je crois que c'est le mot, effectivement. Six Pieds Sous Terre ne connaît pas la crise parce qu'elle ne connaît que ça depuis qu'elles ont commencé, je crois. Mais en surmontant toujours ça, voilà, par beaucoup de bonne volonté, ça reste aussi une structure qui n'a pas des ambitions, si vous voulez, comparables à celles des gros dont vous venez de parler. Mais c'est co-substantiel aussi à son projet, c'est-à-dire que fait partie d'une famille de petites maisons d'édition qui ont besoin aussi de rester petits pour soutenir certains types de projets. Donc il y a une certaine adéquation là pour le coup, mais ces questions effectivement financières, économiques sont abordées dans le bouquin parce que ça a mis quand même en péril la structure assez souvent. Elle est toujours très fragile, mais elle a trouvé un peu de sérénité là, mais encore en 2007 elle a subi une inondation qui a failli l'effacer complètement du paysage.
Voilà, donc 20 ans d'activité, l'ouvrage est sorti en mai de cette année, 336 pages pour détailler 20 années, ça fait un bon ratio de nombre de pages par année, j'imagine aussi plein d'anecdotes et de trucs irracontables, de trucs inédits qui sont peut-être jamais sortis dans les différents ouvrages.
Oui, l'idée c'était un petit peu d'avoir un témoignage comme ça, beaucoup de témoignages, une sorte de témoignage choral, où chacun y va de son anecdote, effectivement, pour qu'à la fin ça dessine un portrait assez global. C'est-à-dire que le lecteur, une fois qu'il a tout lu, se fait une idée plus générale de Six Pieds Sous Terre, plutôt que ce soit une personne, si vous voulez, ou deux qui racontent leurs souvenirs. Donc là c'est très très disparate, mais je crois qu'il y a vraiment une cohérence qu'on a essayé de donner à l'ensemble.
Et puis parallèlement, dans le cadre de ces 20 ans, je le disais tout à l'heure, le musée municipal de la ville de Frontignan, qui est labellisé Musée de France, ce n'est pas rien, accueille l'art de la bande dessinée pour la première fois avec vous, pour fêter les 20 ans de la maison d'édition. Deux expositions ont été créées pour l'occasion et réunies sous un même toit. Il y aura aussi pas mal de séances de dédicaces qui auront lieu pour fêter cet anniversaire. Ces deux expositions, pourquoi il y en a deux? Pourquoi il n'y en a pas qu'une?
Il y en a deux parce qu'il y en a une qui est consacrée justement au livre anniversaire. On a récupéré un certain nombre de pages qui sont dans le livre qui nous ont paru être vraiment très significatives. Et puis l'autre, elle est consacrée au grand-père de Six Pieds Sous Terre, c'est-à-dire trois auteurs qui ont été là vraiment dès le début et qui font un petit peu, qui constituent la charpente, quoi, la colonne vertébrale de la maison.
Le noyau historique.
Voilà, Guillaume Bouzard, Pierre Dubas et Ambre, hein, le noyau historique effectivement. Et puis des auteurs qui sont toujours là et qui continuent de travailler avec eux.
Donc des expos de planches originales, de choses grandes, petites
Comme ce sont trois auteurs qui ont des univers très différents, il y a des pages très classiques, si vous voulez. Et puis, vous avez des dessins et des peintures aussi de Pierre Dubas et de Ambre qui sont vraiment très, 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 très impressionnantes. Ce sont des auteurs qui essayent de mener la bande dessinée un petit peu plus loin, si vous voulez, vers quelque chose de très graphique, de très visuel. Pierre Dubas fait des albums qui sont presque muets pour certains. Les derniers de Ambre aussi travaillent en noir et blanc. Donc, tout ce travail-là, on peut le voir de manière très, très claire là et se rendre compte justement du travail artistique que ça représente.
Voilà, un travail artistique qui, on pense aussi à l'association, mais qui a permis, sur les 20 dernières années, de faire émerger de nouveaux genres dans la bande dessinée, notamment l'autobiographie ou le, on va dire, le roman intimiste ou des choses comme ça. Même si la BD était déjà un genre destiné à toutes les générations, les enfants aux adultes, c'est vrai que sur les 20 dernières années, il y a eu une évolution du genre de la BD plutôt intéressante.
Ah oui, le champ de la bande dessinée s'est énormément élargi. Et C.P. Souter a contribué à ça, fait partie de la même génération que l'association. Donc elle a eu moins de visibilité, si vous voulez, mais elle était vraiment dans la même mouvance. Ouais. Mm-hmm.
Alors on retrouve toutes ces infos sur l'adresse des éditions C.P. Souter. Ça ne s'invente pas, c'est pastis.org/jade où on peut retrouver toutes les infos. Fabrice R., merci beaucoup. On va se quitter avec The Verdens. Petit commentaire.
Oui, c'est un groupe qui est animé notamment par un des auteurs de C.P. qui s'appelle Nicolas Moog. Voilà, un excellent dessinateur et un excellent musicien.
Merci beaucoup. C'est The Verdens. Et puis on enchaîne, car leur tournée part à présent à Lunel, en compagnie du Festival des Mandolines, festival international. Du 31 octobre au 3 novembre 2012 se tient la 9e édition du Festival de la Mandoline de Lunel. Le Festival de la Mandoline de Lunel a été fondé en 2004 pour affirmer la modernité de la mandoline. Malgré qu'on ait pu être charmé par ses sonorités dans les années 70 et le répertoire de Led Zeppelin notamment, Olivier Chabrol fait le constat qu'à la fin du XXe siècle, je cite, « la mandoline n'était encore en Europe que l'instrument de quelques obstinés isolés et pour l'essentiel de ceux qui en gardaient le souvenir, elle restait ce petit instrument fragile et désuet qui n'avait pu faire face au grand chambardement culturel de l'époque contemporaine ». Mais à la suite d'une série d'expériences musicales commencées autour de la mandoline à partir d'Ulysse Orchestra en 1999, de l'accueil enthousiaste du public à des concerts ponctuels de formations originales et de rencontres d'artistes, de cultures et de pays différents, une conclusion à contre-courant de l'histoire s'est imposée avec force. La mandoline est un instrument extraordinaire aux multiples possibilités, un instrument résolument moderne. Depuis, le statut de la mandoline a évolué à grands pas et c'est bien en partie grâce au Festival de Lunel dont il est devenu un des rendez-vous majeurs. Pour sa 9e édition, autour de la reine mandoline, le festival a choisi d'accueillir en plus de nombreux instruments cousins de la mandoline. Le bouzouki grec, la guitare portugaise, le triple colombien, le saz turc, la domra russe, joués par leurs meilleurs interprètes.
Oui, tout à fait. Vous avez très bien dit et très bien résumé la situation. L'arène du festival est toujours la mandoline et on a des artistes absolument exceptionnels qui viennent cette année, plus toujours des créations avec l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Et on se permet de donner la main et d'inviter de nombreux instruments cousins. Le festival en a toujours plus ou moins eu à chaque édition un ou deux et cette année on bascule vraiment, on fait une grosse invitation. Et je peux vous les décliner, on va avoir du bouzouki grec, alors toujours avec des artistes qui viennent de Grèce évidemment et qui sont le dessus du panier. On a la guitare portugaise avec Custódio Castelo qui lui a accompagné la dernière tournée d'Amalia Rodriguez. On a du type colombien avec deux jeunes artistes qui jouent depuis l'enfance, qui sont du type colombien et qui viennent de Colombie, de Bogota, et qui eux sont reconnus nationalement comme des artistes représentants de leur pays. On a la Damra russe avec Natalia Shkrepko qui vient, elle, de Saint-Pétersbourg avec une formation à la fois classique, traditionnelle, très très pétulante. Et on a le saz turc avec Hasan Genç, qui est une espèce de virtuose incroyable de cet instrument, qui est très très méconnu par chez nous, et qui réserve des tas de surprises musicales et culturelles formidables.
Alors la virtuosité, effectivement, on la retrouve souvent dans le festival. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire un tour sur le site mandolinedelunel.com où on peut retrouver les vidéos, notamment des apéritifs qui ont lieu, donc, comme leur nom l'indique, en début de soirée. Et le premier d'entre eux, ce sera à 18h45 ce mercredi 31 octobre avec les musiciens du festival. Ça se passe à l'espace Louis Feuillade. Hein. Voilà, pour le cocktail d'ouverture.
Le cocktail d'ouverture est l'entrée officielle en grande pompe du festival, avec des discours, etc., avec beaucoup de public en général. Et c'est aussi considéré pour nous comme le premier rendez-vous apéro, parce qu'on y boit un coup, et aussi parce que des musiciens déjà du festival font des petites démonstrations. Ceux qui sont déjà présents vont jouer chacun à leur tour un petit morceau. Et puis les rendez-vous apéro continuent ensuite le jeudi, le vendredi et le samedi, dans des bistrots différents, des bars, des cafés différents chaque soir, avec un groupe différent, jusqu'au samedi où à midi, il y a un rendez-vous apéro surprise, et en fin d'après-midi, il y a la scène ouverte où tous les festivaliers, les amateurs, ceux qui sont venus au masterclass, et souvent des artistes viennent jouer spontanément.
Le mercredi 31, vous y faisiez allusion tout à l'heure. Ce sera donc à la salle Georges Brassens où se passent tous les concerts. Ce sera le Rast Bouzouki Quartet des Grecs et puis la Domra russe de Natalia Shrepko and Style of Five. Un nom qui allie anglicisme et prénom russe.
C'est assez surprenant. Et c'est un groupe, alors elle joue la Domra qui ressemble fort à la mandoline. Il y aura aussi une Domra alto, il y aura une Domra basse et à la façon russe. Un accordéon et un clavier qui vient orchestrer tout ça.
Voilà, puis ce jeudi 1er novembre, ce sera au bar Le Camarguet qu'aura lieu le rendez-vous apéro, toujours à 18h45 avec le Claire Luzzi Choro Quartet. On aura compris, là il s'agit du Brésil, mais c'est un combo France-Brésil.
Tout à fait, Claire Luzzi a fait du piano, elle a fait de la mandoline, elle a vécu au Brésil. Et c'est une grande instrumentiste et aussi elle s'est imprégnée beaucoup de l'idiome culturel brésilien pour y avoir vécu, du choro particulièrement, qu'elle joue formidablement bien. Et d'ailleurs, elle a avec elle un guitariste 7 cordes qui est brésilien, Cristiano Nascimento, qui l'accompagne, et deux autres musiciens qui sont français. C'est pour ça que c'est effectivement un combo, comme vous l'avez dit, franco-brésilien.
Un voyage qui se poursuivra toujours ce jeudi 1er novembre à la salle Georges Brassens à 20h45. On ira du Brésil au Portugal, il y a une communauté de langues, et puis on partira en Turquie ensuite.
Voilà, avec Hasan Genç, qui est un musicien phénoménal, un virtuose, je ne sais pas si c'est pas le virtuose le plus virtuose du festival cette année, c'est inouï la façon dont il joue, dans cet idiome de musique turque qu'on connaît très peu ici et qui est absolument étonnant, enfin c'est très beau. Et il joue donc de ce saz, qui est un instrument qui ressemble à la mandoline, au sens que c'est avec des cordes doubles, que ça se joue avec un médiator, qui a aussi des trémolos, et par contre qui a un manche beaucoup plus long, qui se rapproche du bouzouki. Hein, on connaît le face-à-face grec, Grèce bouzouki, sauf les musiciens qui, eux, sont tous amis dans la Grèce et le saz, mais l'instrument se ressemble. Le bouzouki aussi est un instrument en amande, comme ça, avec un manche très long, mais ils sont un peu différents.
Hassan Ouzeyin qui fera suite à Custódio Castelo et sa guitare portugaise.
La guitare portugaise, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, elle a une forme très proche de la guitare brésilienne, que vous avez relié ça à Claire Luzzi, et c'est vrai que le bandolim qu'on connaît par exemple au festival avec notre cher Hamilton de Hollande ressemble fort le bandolim à la guitare portugaise. La guitare portugaise est un peu plus grosse, elle va plus vers la puissance de résonance de la guitare, mais c'est vraiment une sorte de mandoline à des cordes doubles, etc., avec une tête un peu particulière. Et il faut savoir que Custódio, bon, c'est vraiment le grand artiste de cet instrument au Portugal, qui cet instrument a toujours tendance à accompagner des chanteuses. Lui-même a accompagné aux États-Unis la dernière tournée d'Amaya Rodriguez, donc qui pour le fado est la grande reine indépassable pour toujours du fado, et qui a un son... avec Custódio, ça devient un instrument concertant à part entière, instrumental sans chanteuse.
Et puis on reviendra donc en France le lendemain, vendredi 2 novembre, pour le rendez-vous apéro qui se tiendra ce coup-ci au bar Le Glacier à 18h45 avec le Fitzgerald Superband.
Alors ça, c'est un groupe de Parisiens, tous la vingtaine et un peu plus, que des musiciens éclectiques, polyinstrumentistes, qui sont des diplômés de conservatoire, etc., et qui font un groupe à la française, mais inspiré à la fois du bluegrass, de la musique alternative, de toutes sortes de pop et de musique zazou à leur manière, et qui est un groupe qui sur scène, là, c'est dans le Glacier, qui est un café assez grand, sont vraiment très très dynamiques, qui embarquent l'audience. Ça va presque jusqu'à danser, enfin c'est vraiment un groupe dynamique. Et après, bon, le vendredi soir, donc à la salle de concert Georges Brassens, on a ce qui est devenu depuis 3 ans traditionnel au festival, la grande complicité, collaboration avec l'Orchestre National de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Cette fois-ci, on aura une vingtaine de musiciens, un ensemble à cordes de l'orchestre, dirigé par Joachim Jousse, un jeune chef d'orchestre qu'on a fait venir de Paris, pour une création. Hein, vous savez que le festival maintenant, et depuis le début d'ailleurs, mais avec la complicité de l'Orchestre National, c'est encore plus fort, on fait des créations chaque année, hein, des nouvelles œuvres dont on fait la création mondiale. Cette année, le compositeur sera Ricardo Sandoval, avec une œuvre qui s'appelle Paysages, hein, et qui l'interprétera lui en tant que soliste avec l'orchestre. Mmh. On aura aussi le Kerman Mandoline Quartet, qui est un quatuor, qui vient de se créer, et qui après un premier galop d'essai en Israël, viendra tout fraîchement faire son premier concert en Europe et pour le reste du monde, au festival, avec toutes sortes de rencontres, surprises, entre le premier soliste, le quartet qui arrive après, et... Je continue, on fait un hommage spécial à Léo Delibes, qui est un compositeur français de la fin du 19e siècle, en corrélation avec l'Orchestre Symphonique, qui lui au quorum jouera aussi du Delibes. Donc on a décidé de faire ensemble une espèce de programmation croisée où chacun à Lunel et à Montpellier, on fera honneur à cet auteur, ce compositeur français.
Et puis le Kerman Mandoline Quartet et Ricardo Sandoval donneront aussi la première mondiale de Lembranças.
Voilà, c'est une pièce qu'on a commandée aussi spécialement pour le festival, du Cristiano Nascimento dont je vous ai parlé, qui joue dans le Claire Luzzi Show Quartet. Ce guitariste, cette corde brésilien, est aussi un compositeur qui commence à se faire connaître. Et il nous a créé une pièce qui va réunir le Kerman Mandoline Quartet et Ricardo Sandoval en fin de soirée. Ça va être tout à fait épatant.
Cette 9e édition du Festival International des Mandolines se refermera le samedi 3 novembre avec un rendez-vous apéro au bar La Tauromachie. Ce sera à midi pour un concert surprise, et puis à 18h45 ce sera au bar Le Pavillon avec une scène ouverte avant de se retrouver pour le concert à la salle Georges Brassens.
Voilà. voilà, avec Carlos Emmanuel Quintero Badillo, en espérant que j'ai bien prononcé, qui sont deux Colombiens, deux frangins qui viennent de Colombie, donc hein, de Bogota, qui eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits et ensemble, et ils jouent le tiple, et l'un joue le tiple qui serait l'équivalent de la mandoline au point de vue tessiture, un peu plus aigu, et l'autre un peu plus le tiple, qui correspondrait plus à le tiple formule guitare, hein, c'est des cordes triplées, c'est encore plus fort que la mandoline, en termes de doublage de notes, non, eux ils triplent, et ils jouent formidablement la musique colombienne, ils sont reconnus comme des artistes nationaux chez eux, bien qu'ils sont très jeunes, et ensuite on a le Punch Brothers et Chris Sillé étant actuellement le mandolinero mondial le plus en vue, venu des États-Unis, qui vient de recevoir une bourse pour 4 ans pour être aux États-Unis reconnu comme un des artistes les plus créatifs actuellement et à qui on demande de continuer ce travail de création librement en l'aidant financièrement pour qu'il continue justement à développer cet art nouveau qui crée à partir du bluegrass, qu'on appelle maintenant le newgrass. Mais lui, il porte ça avec son groupe, les Punch Brothers, encore plus loin. Enfin, c'est vraiment un artiste très, très, très en vue actuellement.
Alors, c'est la 9e édition de ce festival, dont je rappelle, on peut retrouver la programmation sur mandoline au pluriel de lunel.com. Est-ce que la qualité de la programmation vous garantit année après année une augmentation de la fréquentation? Comment ça évolue? Est-ce que c'est stable?
Elle est toujours stable et légèrement en évolution chaque année. Et elle est au taquet, évidemment, à Lunel, hein, puisqu'on a une salle qui fait 460 places. Maintenant, sur les 4 jours, ben, on est à fond. Alors, je pense qu'il y a des projets, peut-être de nouvelles salles pour l'avenir. Et puis, bon, cette aventure avec la ville de Lunel est vraiment une très belle aventure, dans la mesure où tout est Lunel, que ce soit, est considéré comme une ville secondaire ou de province par certaines personnes. C'est quand même, en tout cas au niveau de la mandoline, le centre du monde. Et si on n'avait pas eu une ville comme ça, qui ait eu le feeling et l'intuition de reconnaître cet instrument était porteur et pourrait faire quelque chose, un événement intéressant, on n'en serait pas là. Donc on est vraiment très content pour ça, de cette collaboration avec cette ville de Lunel.
Et les Lunellois et les Lunelloises fréquentent assidûment aussi le festival. Est-ce que c'est devenu finalement une fierté locale?
Écoutez, on trouve de tout, vous savez, je pense que les Lunellois ont vraiment intégré, on a beaucoup de réservations maintenant au festival de Lunel, hein, qui sont des Lunellois, on en a qui viennent plus largement du Languedoc-Roussillon, et même au-delà du Languedoc-Roussillon, et même au-delà du national des fois, hein. Mais les Lunellois, oui, ont maintenant... Se sont appropriés le festival. Maintenant, je ne vous cache pas que des fois, je suis surpris, après 9 ans de festival, que des fois, on puisse rencontrer encore un Lunellois qui n'est même pas au courant qu'il y a le festival chez lui. Mais ça, c'est partout pareil, ça n'a rien à voir.
Alors, 9e édition, la question est incontournable. J'imagine que pour la 10e édition, des choses un petit peu particulières se profilent.
Naturellement. Vous avez bien anticipé. C'est vrai qu'on est c'est tellement un miracle, si vous voulez, qu'autour de cet instrument qui était considéré comme désuet, fragile, passé de mode, impossible à remettre en scène, maintenant, au stade où on en est, alors je ne dis pas que la bataille est gagnée, beaucoup de gens encore ignorent toujours la mandoline, hein, c'est normal, il faut quand même des années et des années avant que ça redevienne un instrument à la hauteur et de la notoriété des autres, mais maintenant... Être arrivé 9 ans à créer une émulation, un renouvellement de répertoire, des nouvelles rencontres d'artistes pendant 9 ans, ça nous porte à penser que pour la 10e édition, on va essayer de faire une grande fête et de consacrer ce festival pour encore plusieurs années, bien sûr.
Une interview d'Olivier Chabrol, directeur du Festival international des mandolines de Lunel, dont la 9e édition se tient du 31 octobre au 31 novembre. Un sujet proposé et réalisé par Gilles Couget pour Divergence FM.
Et c'est ainsi que se referme cette auberge espagnole du mardi 30 octobre. Gilles Gouget vous remercie. Il remercie Gérard Viol et Bruno Bertrand qui ont réalisé cette émission. On vous rappelle que Momus, qu'on entend en ce moment, artiste britannique culte des 80s, 90s, se produira ce 4 novembre, dimanche, au Mojomatic. C'est pas une soirée privée, mais c'est les 40 ans quand même de David Fraissinet, ancien animateur de Divergence et guitariste-chanteur des Part-Time Drunks. Voilà, le caractère indéniable confidentiel de cet artiste et la date prise en dernière minute font craindre que trop peu de gens soient au courant de ce concert. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. On vous souhaite une belle journée, une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, à l'écoute des programmes de Divergence FM. Salut. Perhaps I lack a sense of humour, but your interesting rumour sketches me a statue quite impossible to match. For your baroque imagination sees adulterous Casanova, in reality I'm just an unadulterated wretch. I'm sad to say, a quite unworthy adversary. Morris is to homosex. You're acting anyway.